Je suis émerveillé de voir comment Dieu organise les choses. Je ne savais pas qu'il y avait une équipe qui se préparait à partir en mission, mais c'est tout à fait la manière dont Dieu agit souvent. Il connaît nos besoins. Prions. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a autour de ta parole. Ô combien on a besoin d'être touché par toi. Combien on a besoin d'être instruit. Et merci pour ta fidélité à nous enseigner ta parole. Merci pour cette parole qui est si bonne pour nous. Applique-la à nos cœurs par ton Saint-Esprit et permets que par elle nous grandissions, que nous connaissions mieux Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que vous vous êtes déjà enrôlé, vous, dans une activité? On va dire un club ou une équipe sportive. Ouais, c'est arrivé? Peut-être que vous êtes enrôlé dans un cours ou dans une épreuve quelconque. Une épreuve où le coach, dès la première rencontre, vous dit, écoutez bien, comptez le nombre de personnes présentes aujourd'hui. Hein? Vous arrivez là et vous êtes tout feu, tout flamme. Le coach vous dit, comptez le nombre de personnes présentes. Je vous garantis qu'à la fin de l'année, plusieurs d'entre vous n'allez pas continuer. Wow. Vous avez déjà entendu ça? C'est pas très motivant, non? Et pourtant, on pense que c'est pas encourageant, mais pourtant, ce sont des paroles réalistes. Des paroles remplies de lucidité. Des paroles vraies, des paroles utiles. En fait, c'est un avertissement qui est donné pour sonder le niveau d'engagement. Parce que quand on commence quelque chose, il faut savoir quel est notre niveau d'engagement. Jésus vient d'annoncer les paraboles du royaume de Dieu aux populations de Palestine. Hein? Et aussi aux disciples. Pendant 3 ans, Jésus va annoncer les paraboles, un enseignement, et à ses disciples, et aux populations de Palestine. Alors, on entend parler de ces miracles. Les gens discutent au sujet de tout ce que Jésus fait. Beaucoup s'intéressent au tout début. Et les foules sont curieuses. Il y a de l'opposition également, mais les paroles de Jésus opèrent un tri. Vous savez, annoncer la parole de Dieu et il va s'opérer un tri. Il y a des personnes intéressées au début qui vont quitter. Et ceux qui sont enthousiasmés au départ, certains vont partir. On a lu le texte dans Matthieu 13, un texte profond qui parle de la première parabole que Jésus enseigne. Jésus parle ici du royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Il explique ce que c'est. Il explique en employant des paraboles, des images, des illustrations pour parler de quelque chose que le peuple ne connaît pas. Vous savez, Jésus n'a pas inventé ce style des paraboles. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais les paraboles existaient chez les rabbins à l'époque de Jésus et même dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on trouve 7 paraboles. Et vous vous souvenez peut-être de celle du prophète Nathan qui est allé voir David qui avait péché et qui lui raconte l'histoire d'une petite brebis. C'est une parabole. Alors, pourquoi les paraboles? Les paraboles sont données pour expliquer des vérités spirituelles, des vérités qui ne sont pas connues, qui sont cachées. Et on les explique en prenant des exemples de la vie quotidienne. Des exemples connus. Parabolé. Parabolé. Ça veut dire mettre à côté. Jésus met l'une à côté de l'autre des réalités terrestres et des réalités spirituelles. L'une à côté de l'autre des réalités visibles et des réalités invisibles. Et c'est ça une parabole. Partir du connu, de notre expérience quotidienne et aller vers l'inconnu, des réalités spirituelles que Jésus veut enseigner. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a dans le Nouveau Testament 27 paraboles. Et ça représente le tiers de tout l'enseignement de Jésus-Christ. C'est beaucoup, non? Le tiers de l'enseignement de Jésus s'est fait en parabole. Jésus aimait parler en parabole. J'aimerais dire ceci au sujet de cette première parabole de Matthieu 13. J'aimerais dégager trois vérités importantes très rapidement. Premièrement, ce qu'il faut savoir de la première parabole, c'est que cette parabole n'a pas la fonction d'enfermer ou de cloisonner dans une catégorie particulière chaque être humain qui existe ou qui a existé sur la planète Terre depuis que Jésus est venu jusqu'à maintenant. Le but, c'est pas d'enfermer les gens et de les cloisonner. Autrement dit, dire « tu es une terre dure aujourd'hui, tu vas toujours être une terre dure ». Ou par exemple, « tu es une terre spirituelle aujourd'hui, tu vas toujours être une terre spirituelle ». Non, les paraboles de Jésus, et surtout celle-là, n'a pas été donnée pour enfermer des personnes dans une catégorie et dans une manière de vivre, et la personne serait toujours comme ça. Deuxièmement, cette parabole, la première, n'a pas comme objectif de limiter les réactions des hommes qui entendent l'Évangile à seulement quatre réactions. Alors, on a quatre terres et on pourrait s'imaginer, ok, ça veut dire que face à l'Évangile, il n'y a que quatre réactions. Bien sûr que non. Il peut y avoir plusieurs autres réactions à l'écoute de la parole de Dieu. Par exemple, l'écoute de la parole peut produire de la violence, mais Jésus n'en parle pas ici. Mais ça existe. Donc, Matthieu 13 n'a pas comme objectif de nous montrer toutes les réactions possibles à l'Évangile. Il y a toutes sortes d'autres réactions qui ne sont pas montrées ici. Troisièmement, cette parabole, contrairement à ce que certaines personnes pensent, cette parabole ne décrit pas quatre types de chrétiens différents. Alors, il y a des personnes qui pensent qu'ici, on parle de quatre types de chrétiens différents. Mais non. Il n'y a, en un sens, qu'un seul type de chrétien. C'est un chrétien qui a reçu la parole de Dieu, qui est né de nouveau et qui persévère dans la foi. Ça, c'est le seul type de chrétien qui existe. Et donc, ici, on ne décrit pas quatre types de chrétiens différents. Dans les trois premiers cas qui sont décrits en Matthieu 13, on a l'exemple de plusieurs personnes. Et les deux des trois exemples qui sont donnés, par exemple les deux premiers, semblent être des personnes qui sont sauvées. Quand vous lisez la parabole, il y a de la joie, il y a quelque chose qui se passe au début, et on pourrait dire, ce sont des personnes sauvées. Mais non, en réalité, Jésus nous fait comprendre que ces trois premiers terrains aboutissent à une sorte d'avortement spirituel. Et au final, il n'y a pas de vie. Donc, les trois premiers terrains, ce ne sont pas des chrétiens. Maintenant, on va parler de ceux qui écoutent Jésus au bord du lac. À quelle foule Jésus a-t-il affaire ici? Il y a d'abord la grande foule de ceux qui écoutent, des personnes que Jésus peut-être ne connaît pas. Et Jésus, premièrement, il veut avertir la foule. C'est comme pour leur dire, faites attention, prenez au sérieux les paroles que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, un avertissement. Deuxièmement, Jésus prêche aussi à ses disciples. Il y a deux niveaux, il y a la grande foule, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et il y a les disciples. Et là, Jésus, il veut encourager ses disciples, un peu comme s'il leur disait, vous allez être appelés vous aussi à semer cette parole. Et on voit après le chapitre 13 combien de fois les apôtres vont semer la parole. Et Jésus veut leur dire, n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Vous allez rencontrer des gens qui vont réagir à votre enseignement de la même manière que je vous décris ici. Vous allez les rencontrer, ces gens-là. Il y aura des réactions différentes. Et déjà, dans les chapitres avant le chapitre 13, Jésus lui-même avait semé lui-même la parole de Dieu fidèlement. Il avait annoncé l'Évangile et lui-même, il avait dû faire face à de nombreux refus. Jésus a dû faire face à de l'opposition même. Et là, il les encourage. Il encourage ses disciples. Encouragement parce que même s'il semble que la plupart des gens vont rejeter l'Évangile, il va y avoir des réponses positives. Et chez les personnes qui vont répondre positivement, l'Évangile va produire un fruit glorieux. Ça, il faut garder ça en tête. 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100. Vous allez partir au Sénégal, vous allez semer l'évangile, gardez en tête qu'il y aura des gens qui ne vont pas recevoir le message, mais il y aura aussi des personnes préparées qui vont porter du fruit. Pour nous qui partageons notre foi avec nos collègues de travail peut-être, peut-être avec les membres de notre famille, avec nos voisins, ne nous laissons pas décourager par les résultats. Les résultats appartiennent à Dieu. Tout le monde ne va pas se convertir. Il y aura des déceptions, il y aura des pertes, entre guillemets. On va penser parfois qu'une personne a vraiment compris l'évangile, mais après un certain temps, on va découvrir que non. Ne pensons pas qu'il y a un problème avec la semence. Vous savez, quand on sème et qu'on ne voit pas tout de suite le fruit, on peut en arriver à penser, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la semence ? Non. La semence est très bonne. Continuons à répandre largement la semence. Dieu connaît ceux qui vont porter du fruit. Soyons persévérants. Dans l'évangile de Matthieu, un peu avant le texte d'aujourd'hui, chapitre 13 au chapitre 9, Jésus parle d'une abondante récolte. La moisson est grande, Jésus dit. Je pense que vous savez tous que avoir une récolte en automne, ça n'arrive pas comme ça sans avoir travaillé au printemps. On est à l'époque des semailles maintenant. Hein, peut-être que c'était un peu il y a quelques semaines. Mais si on fait rien au printemps, il n'y a pas de récolte en automne. Un fermier se bercerait d'illusions s'il s'imaginait récolter beaucoup de fruits. Au moment des semailles, il n'a rien fait et il pense qu'il y aura une récolte en automne. Il se bercerait d'illusions. Semons abondamment. N'oublions pas de lancer la semence et de répandre largement. On va parler maintenant des trois terrains. Des trois terrains qui ne produisent pas. Mais d'abord, il faut dire ceci. Quand l'évangile est prêché, il n'y a pas de terrain neutre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Quand l'évangile est prêché, il n'y a pas de terrain neutre. Quand la parole est donnée, Jésus nous prévient qu'il y a une action démoniaque intense. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Il y a une action démoniaque intense pour empêcher la semence de porter du fruit. Les terrains ne sont pas neutres. Il y a un ennemi de Dieu, un ennemi invisible qui va chercher par tous les moyens à arracher de notre cœur ou du cœur de ceux qui entendent la parole de Dieu, la parole qui vient d'être annoncée. Il faut en être conscient. C'est un combat spirituel. Il faut en être averti. Satan déteste la prédication de l'Évangile. Satan déteste qu'on ouvre la Bible, qu'on l'écoute le dimanche après-midi. Satan veut empêcher à cette semence de pénétrer dans un cœur humain. Il veut à tout prix empêcher cela. Même cet après-midi, c'est ce qu'il voudrait essayer de faire ici. Hein? C'est ce qu'il voudrait faire ici. Son œuvre est subtile. Alors comment il fait ça? Il nous détourne, il nous distrait, il nous occupe avec tellement d'autres choses plus importantes les unes que les autres. Une petite mouche qui se promène là, le téléphone portable, les pensées qui vagabondent. Et Satan aimerait faire ça. Ça pourrait vous sembler étrange, mais même à l'église, même en plein culte, il y a un combat à mener pour ne pas laisser l'ennemi nous détourner de ce qui est enseigné. Et c'est réel, mes amis. Vous l'avez vécu vous-même, et moi je le vis. Dans le premier terrain, Jésus nous dit que Satan a arraché la semence. Il l'a enlevée. Et le mot qui est écrit en grec, c'est le mot « arpazo ». C'est un mot qui s'apparence à « harpon ». Vous savez, la pêche à la baleine, et on lance un harpon. Tac. Et là, tu enlèves la baleine, tu la sors. C'est ce que Satan veut faire. L'ennemi harponne la parole qui est mise en nous. Et il l'enlève. Quand on entend la parole de Dieu, prenons conscience des enjeux. Prions, préparons notre cœur. Premier terrain, donc, la semence est arrachée. Et le résultat, c'est qu'elle ne porte pas de fruits. Et ça, c'est dommage. Verset 20 nous parle ensuite d'un terrain rocheux. La parole, elle est reçue avec joie. Waouh, c'est super! Tu partages l'évangile et un nouveau venu réagit comme ça et il est rempli de joie et ça nous encourage. Ça vous est peut-être arrivé à vous. Vous avez partagé la parole de Dieu et là, il y a tout de suite une réaction, il y a de la joie et là, vous dites, c'est super. Et c'est normal qu'on soit encouragé. Se réjouir, être rempli de joie, c'est une bonne chose. C'est le fruit de l'esprit. Mais ici, Jésus semble parler de quelque chose d'autre que simplement la joie spirituelle. Il y a quelque chose d'autre qui se passe ici. C'est un différent type de joie. La source de la joie, ce n'est pas Jésus lui-même, ce n'est pas l'Évangile. On s'enthousiasme, mais pas pour les bonnes raisons. Au moment où Jésus raconte sa parabole, on peut se mettre dans le contexte, il y a une foule, on est au bord de la mer, il y a une plage pas loin, tout le monde est gentil. On peut s'enthousiasmer dans une église aussi, parce que la musique était bonne, parce que le show était captivant, parce que l'ambiance était festive, l'orateur était doué. Mais cette joie, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Le 6e président américain s'appelait Benjamin Franklin. Et il paraît que Benjamin Franklin allait écouter le grand prédicateur George Whitefield, un revivaliste qui a vécu en même temps que John Wesley et qui a prêché aux États-Unis. Alors, il aimait bien assister aux réunions où Whitefield prêchait. Il a assisté à des grands rassemblements évangéliques, mais Franklin n'a jamais eu une foi personnelle en Jésus-Christ. Aimer le prédicateur, mais être indifférent au message. Attention. Quelle est la source de notre joie? Dans le deuxième terrain, la semence n'a pas produit de racines. Et ça, c'est grave. Si on veut récolter et que le légume ou la plante qu'on sème n'a pas de racines, c'est grave. Pas de racines, c'est terrible. Parce que sans racines, il n'y a pas de vie. Alors, parfois, il y a des problèmes qui arrivent. Parfois, il y a des déceptions. Parfois, il y a des revers de fortune et la souffrance. Et ça fait partie de la vie. Et les vrais croyants n'en sont pas épargnés, vous le savez vous-même. Quand la joie qu'on a à l'écoute de la parole de Dieu n'est pas en Jésus lui-même ou en l'Évangile ou dans le fait qu'il nous a aimés au point de prendre notre place sur la croix, de mourir pour nous pardonner, pour nous donner la vie éternelle, quand notre joie n'est pas dans une relation personnelle avec Dieu, qui est devenu notre frère et qui nous motive, quand notre joie n'est pas d'abord en cela, qu'est-ce qui va se passer? Les persécutions, les épreuves de la vie vont nous détourner, comme ici, la deuxième terre. Et là, on assiste à un avortement, une grossesse qui ne se rend pas à terme, et au final, il n'y a pas de vie. Alors les exemples sont nombreux de chrétiens qui ont été éprouvés, malades, persécutés. Jean Calvin a vécu presque toute sa vie avec une maladie grave. Brainerd, le missionnaire parmi les Indiens aux États-Unis, était malade toute sa vie. Il est mort très très jeune, mais l'Esprit a soutenu ces gens-là et ils ont tenu bon parce que leur joie n'était pas qu'émotionnelle ou superficielle. Ils étaient attachés à Jésus lui-même. Ils avaient des racines dans l'Évangile. Et on peut se poser la question, nous, aujourd'hui, cet après-midi, où sont tes racines? Où sont tes racines? Quel genre de joie l'Évangile produit-il en toi? Troisième, terre. On remarque que le cœur est asphyxié par le monde. Les soucis de la vie, les plaisirs trompeurs, l'attrait des richesses, la poursuite du succès, les conquêtes, la popularité, les convoitises. Quand tu cultives un champ, il semble que les mauvaises herbes soient partout. Tu as déjà fait un jardin, à l'état naturel, il y a plein de mauvaises herbes. avant de planter, il faut se débarrasser des mauvaises herbes. Et tu essaies de les enlever, et si tu n'enlèves pas la racine, qu'est-ce qui se passe? Ça revient, puis s'enlit. Passe la tondeuse, beau terrain, c'est tout beau, et si tu n'as pas enlevé la racine, ça revient. Et même parfois, en plus grand nombre. Et c'est le cas de cette troisième terre. Le semeur, en semant, ne voyait pas les racines, les épines, les ronces, les mauvaises herbes. Et il n'a pas déraciné. On déracine dans une repentance sincère. On se repent et les racines du péché sont enlevées. Et ce qui s'est passé, les racines n'étaient pas enlevées et la parole de Dieu n'a pas pu produire son fruit. La parole de Dieu a été étouffée. Donc jusqu'à maintenant, on a vu un cœur dur. On a vu un cœur superficiel. On a vu un cœur encombré. Alors si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être reconnu dans l'un ou plusieurs de ces terrains. Mais on peut remercier le Seigneur ce matin parce que Jésus peut changer un cœur dur. Il peut changer un cœur dur en un cœur tendre. Il peut transformer un cœur superficiel en un cœur réceptif. Il peut prendre un cœur partagé et en faire un cœur unifié. Et on prie que le Seigneur laboure nos cœurs aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à accueillir sa parole, à la comprendre pour qu'elle porte beaucoup de fruits dans nos vies. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Verset 23 maintenant. Quatrième terrain. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette personne entend la parole de Dieu. Elle la comprend et elle porte du fruit. Ouf, enfin, c'est super. Vous avez semé toute la journée, vous avez semé pendant des années et finalement, il y a un terrain qui porte du fruit. Ça, c'est encourageant. Le quatrième terrain est prêt, il est préparé et il est fertile. En écoutant la lecture du verset 23, on peut se poser la question « Et moi ?» Est-ce que je suis le quatrième sol ou je suis le numéro 1, 2 ou 3? Quel genre de sol suis-je? Quel genre de terrain suis-je cet après-midi? Première chose à dire au sujet de ce dernier verset, le verset 23, c'est que personne n'est naturellement une bonne terre. Saviez-vous ça? Je connais personne de par sa nature qui est une bonne terre au départ. Personne. Si on pense à Noé, Abraham, David, l'apôtre Pierre, on pourrait s'imaginer qu'eux, ils étaient naturellement une bonne terre. Mais on n'aura pas lu tellement longtemps le livre de la Genèse ou les psaumes ou les évangiles pour se rendre compte que non, au départ, aucun de ces hommes n'était une bonne terre. Personne, par nature, n'est une bonne terre. En fait, quand on considère l'humanité, on découvre qu'il n'y a que deux types d'hommes. Il y a les pécheurs d'un côté, depuis Genèse 3, et de l'autre côté, il y a Jésus. Deux types d'hommes. Il y a les trois premiers terrains, ça c'est tous les hommes, et puis il y a Jésus qui est une bonne terre. Le seul homme qui n'ait jamais péché. Personne n'est une bonne terre au départ. La bonne terre ne l'est pas naturellement. C'est Dieu qui la rend bonne, la terre. Que peut nous enseigner ce texte cet après-midi à nous qui vivons à Saint-Maur, à nous qui sommes dans cette église? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte-là? J'aimerais qu'on retienne trois leçons très simples. Premièrement, je ne suis rien. Ça, c'est la première leçon. Jésus aurait pu prendre n'importe quelle image pour nous décrire vous et moi dans cette parabole-là. Hein? Mais quelle illustration Jésus choisit-il pour sa première parabole au chapitre 13? Celle d'un terrain, d'un sol, pensez-y. La condition d'un chrétien avant d'être sauvé, la condition de tout être humain, c'est quoi? Nous sommes poussière. C'est quoi un terrain? C'est de la poussière, du sol, un terrain. Si Jésus nous avait décrit comme une étoile ou un soleil, on aurait peut-être pu s'en vanter un peu. Une étoile, ça brille, on remarque. Mais non. On est comparé à de la poussière. Il aurait pu nous comparer à un diamant précieux, d'une grande valeur. Mais non. Jésus prend pas cet exemple-là ici. Il nous compare à un sol, à du terrain. Ça nous ramène à la réalité, mes amis. Dieu choisit d'aimer une créature tirée de la poussière, de l'humus. Et c'est de ce mot-là qu'on obtient humilité. Humus, on est de la poussière. La poussière seule, le terrain seul, ne peut produire aucun fruit. Expose la poussière au soleil, arrose un sol tant que tu voudras, rien ne va pousser. Rien ne va pousser. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de fruit. Une terre toute seule, tu l'arroses, s'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de fruit. On a besoin de la parole de Dieu. La bonne terre reconnaît dès le départ que seule, elle ne peut rien. Elle est impuissante d'elle-même à porter du fruit. Dieu donne son fruit par sa parole à une personne qui se reconnaît impuissante d'elle-même. Je ne peux pas produire du fruit, ni dans ma vie, ni dans celle des autres. J'ai besoin de sa parole. Je ne suis que poussière. Je ne suis qu'un terrain. Et c'est l'image que Jésus emploie. Ensuite, deuxièmement, Christ est tout. C'est d'abord la semence qui produit du fruit. Et d'où vient cette semence ? Elle vient de la main de Jésus. C'est Jésus qui donne la semence. C'est aussi Jésus le semeur qui laboure le cœur des gens pour que la semence porte du fruit. Et c'est encore Jésus qui ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne sa parole et qu'elle transforme nos vies. Le terrain tout seul ne peut pas faire ça. Pour porter le fruit du salut, on a besoin de Jésus et on a besoin de sa parole. La parole de Dieu, c'est donc le principe de notre mission. Ceux qui partent au Sénégal en mission, le principe de votre mission, c'est la parole de Dieu. Conclusion. L'enjeu au final du texte, c'est la parole. Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie après que j'ai entendu sa parole? Qu'est-ce que je vais faire de la parole que j'entends? Quelle place cette parole aura dans mon cœur? Jésus veut transformer nos vies stériles en un champ productif. Il faut se rendre compte de ça. La volonté de Dieu, c'est qu'on porte beaucoup de fruits et ainsi le Père sera glorifié. Jésus veut faire ça par sa grâce et pour sa gloire. Si Christ a été reçu dans une terre préparée, une terre qui a été labourée, il va nous amener à porter beaucoup de fruits. Plus nous porterons de fruits, plus il va être glorifié. Ça, c'est Jean chapitre 15. J'aimerais, cet après-midi, avant de terminer, qu'on puisse réfléchir et qu'on se pose deux questions. Et je vais vous laisser avec ces deux questions. Comment est-ce que j'entends la parole de Dieu? Comment est-ce que j'accueille la parole de Dieu? C'est la première question. Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Et la deuxième, est-ce que j'ai bien compris la place de la parole de Dieu dans la mission que Dieu m'a confiée? Est-ce que j'ai saisi l'importance de la parole de Dieu dans la mission que Dieu m'a confiée? Nous ne devons pas douter de la puissance de la parole de Dieu. Si elle n'a pas produit de fruits, ce n'est pas un défaut de la semence. Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. J'aimerais terminer en lisant Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que ton esprit fait. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la semence pour semer. Et c'est toi qui viens semer aussi dans nos cœurs. Et merci Seigneur parce que tu as préparé un fruit. Et Seigneur, tu veux que nous portions beaucoup de fruits afin que ton nom soit glorifié. Je te prie qu'aujourd'hui ta parole tombe dans des bons cœurs, des cœurs préparés par toi. Je te prie Seigneur que s'il se trouve des cœurs superficiels ou durs ou étouffés ou partagés par autre chose, eh ben que tu puisses changer notre cœur, pour qu'on passe d'un cœur dur à un cœur fertile, un cœur encombré à un cœur unifié, un cœur superficiel à un cœur approfondi et profond pour toi. Je prie Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.